40e jour de guerre au Moyen-Orient. Je dis bien 40e jour de guerre parce que si les Américains, pour le moment, ont gardé l'arme au pied, pas de frappe américaine, le conflit est toujours là. Il suffit de regarder ce qui s'est passé aujourd'hui à Beyrouth et à Tyr, où l'armée israélienne a lâché un véritable tapis de bombe, puisqu'on nous dit que Israël n'est pas concerné par ce cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, on va retrouver tout de suite Naoufel El-Khaoufi pour BFM TV. Il est à Beyrouth sur l'un des lieux de frappe.
Oui, scène apocalyptique qu'on est en train de vivre en plein centre de Beyrouth avec ces plusieurs frappes qui ont ciblé des immeubles résidentiels. On est ici dans un quartier au cœur de la capitale libanaise, un quartier plutôt calme, densément peuplé. Une frappe qui a visé et qui a fait énormément de dégâts sur ces différents immeubles résidentiels. Vous voyez qu'ils sont éventrés. Cette frappe a provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes, plusieurs blessés. Difficile de vous donner un nombre, mais on sait que les dégâts sont considérables compte tenu de l'étendue des dégâts. En ce moment même, vous apercevez donc les différents secouristes qui sont toujours présents, qui procèdent à différentes vérifications pour tenter de retrouver de potentiels vivants. Situation extrêmement tendue, c'est tout un déluge de feu qui s'est abattu, pas seulement ici au cœur de la capitale, dans tout le pays, la banlieue sud de Beyrouth, le sud Liban, mais également le nord, et la plupart de ces différentes localités n'avaient pas reçu d'avis d'évacuation, ce qui crée une certaine forme d'inquiétude et de psychose de la part des habitants qui sont complètement effrayés, qui en ont marre, l'impression d'être pris au piège par cette guerre. Eux qui pensaient ce matin, en se réveillant, à un potentiel cessez-le-feu, il n'en est rien. Tsahal a expliqué avoir lancé près de 106 missiles, 100 sites qui ont été frappés tout au long de la journée, la plus grande opération depuis le début de la guerre.
À Beyrouth, on va retrouver Élise Phillips en direct, toujours, parce que Élise, vous êtes le témoin de la saturation des hôpitaux.
Exactement, depuis tout à l'heure, devant cet hôpital de Beyrouth, dans le centre de Beyrouth, les habitants, les médecins reçoivent énormément de patients. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes à peu près, il y a des ambulances qui sonnent, qui viennent décharger des patients. La plupart sont sur des civières parce qu'ils n'arrivent pas à marcher, à se déplacer par eux-mêmes. Ils sont pris en charge par des infirmiers, par des médecins qui notent dans un premier temps quel est leur état, quelles sont leurs blessures, quel est leur âge, leur sexe. Et ensuite, ces patients sont transférés vers le service des urgences. Beaucoup ont déjà dû être opérés. Discuté il y a quelques secondes à peine avec la médecin responsable pour la journée, qui me disait avoir déjà reçu 38 personnes, dont une dame qui est arrivée à l'instant, et elle a été blessée dans une frappe qui vient de se produire, parce qu'il y a eu toutes les frappes de la journée. Et puis à l'instant, ici à Beyrouth, il y a à nouveau eu trois frappes, dont une qui est dans un quartier tout proche d'ici, un quartier donc pas du tout dans les quartiers sud habituellement frappés par Israël. Et donc on s'attend à un nouvel afflux de blessés ici dans ces hôpitaux. Ces hôpitaux sont saturés. D'ailleurs, certains patients viennent de loin, viennent de lieux de frappe qui sont situés parfois à une trentaine de minutes de route d'ici. Ils sont pris en charge ici par le personnel soignant, par des infirmiers, des médecins qui les emmènent ensuite dans l'hôpital, parfois pour les opérer. Certaines blessures sont très graves. Il y a des amputations, des enfants qui ont été blessés à la tête. On a vu tout au long de la journée avec Julie Roser des gens qui arrivent avec des pansements sur la tête, qui sont parfois inconscients, ne savent pas vraiment ce qui leur est arrivé. D'autres étaient couverts de poussière. Ils avaient à peine été extraits des décombres. C'est une journée donc de chaos qui a été vécue ici par les habitants à Beyrouth. On redoute la suite, puisque je vous le disais, il y a encore eu des frappes il y a quelques minutes. Et Israël a justifié ces bombardements massifs sur la capitale en disant que l'armée avait frappé à nouveau des quartiers du Hezbollah et que le Hezbollah se dirigeait maintenant vers les quartiers nord de la ville, vers des endroits où d'habitude il n'est pas. Israël donc tente de justifier ses frappes dans des quartiers différents en disant encore une fois que c'est toujours le Hezbollah qu'elle traque et pas des civils. Il n'empêche que ce soir, il y a beaucoup de victimes civiles, des enfants parmi les victimes. Le bilan provisoire du ministère de la Santé libanais fait état de 89 morts et 722 blessés. Ça pourrait augmenter. Il y a des appels à témoins qui sont lancés sur les réseaux sociaux parce que des gens, ce soir, cherchent leurs proches portés disparus.
Élise Phillips à Beyrouth avec Julie Roser pour BFM.
Élise Gosset, revenons sur cette journée particulière. Quelques heures donc après la signature d'un cessez-le-feu, Israël lance sa plus vaste offensive contre les positions du Hezbollah au Liban. Les autorités iraniennes menacent de sortir du cessez-le-feu et Donald Trump est obligé de dire à un média américain que ce qui se passe au Liban n'est pas dans le cessez-le-feu.
C'est ça,
ça devient compliqué.
Donald Trump a dit effectivement ouvertement, le cessez-le-feu ne concerne pas le Liban, ce qui est une sorte de feu vert donné à Israël, mais on voit bien que ça ne peut pas durer longtemps et c'est la raison pour laquelle Israël a choisi de pilonné Beyrouth pendant toute la journée avec une violence effectivement jamais vue depuis le 28 février, depuis le début de la guerre, même si l'offensive israélienne n'a commencé que le 2 mars. Mmh. Mais le nombre de victimes est considérable.
Près 89 de
720
morts,
blessés, 89 morts.
Selon le ministère de la Santé.
Il y avait déjà eu près de 1500 morts. 1500 morts depuis le début de l'offensive israélienne et 1 million de blessés. On voit bien que Israël frappe tous azimuts pour essayer d'éliminer un maximum de capacité du Hezbollah en termes humains et en termes militaires et armes pour le jour où il sera obligé d'arrêter ou Trump demandera d'arrêter. Sinon, effectivement, le cessez-le-feu lui-même sera compromis. Les Iraniens ont déjà menacé d'arrêter tout accord s'il y avait toujours des bombardements. Les grands pays de la région s'inquiètent également des conséquences de cette offensive israélienne renouvelée. Donc, à un moment donné, il faudra que Trump siffle la fin de la partie. Mais pour l'instant...
Est-ce qu'il le peut? Parce que Benjamin Netanyahu va écouter Donald Trump.
S'il le veut, il le peut. C'est une question de... Il faut savoir s'il veut sauver son cessez-le-feu ou pas. Ou si le cessez-le-feu va être rompu à peine 48 heures après avoir été conclu.
Il y a peut-être une autre interprétation, c'est que le Premier ministre israélien ne voulait peut-être pas de ce cessez-le-feu, ou en tout cas, a l'intention de continuer à mener ses objectifs, qui sont pas forcément les mêmes que celui du président américain.
Oui, je pense que les objectifs américains et israéliens, depuis le début, on a beaucoup glosé sur leurs divergences, mais ils vont globalement dans le même sens, ne serait-ce que parce que l'opération, rappelez-vous, elle a été étroitement organisée par les deux états-majors. On dit souvent que Tsahal a pour la première fois fait la guerre en anglais, tellement il y avait une imbrication entre les deux armées israéliennes et américaines. Maintenant, il est vrai que les Israéliens sont dans un combat existentiel vis-à-vis de l'Iran. Les États-Unis, eux, sont très éloignés de la région. Ils peuvent accepter, notamment pour le détroit d'Hormuz, un cessez-le-feu, là où Israël aurait vu plutôt un changement de régime comme étant l'objectif à mener et donc la poursuite des combats. Maintenant, ce que je voudrais dire sur le Liban, c'est que depuis le début, on sait que les Américains ont sous-traité la question libanaise à l'armée israélienne. Et je trouve extrêmement frappant que, vous savez, il y a tout un débat pour savoir si ce sont les Américains qui ont finalement baissé la garde ou si ce sont les Iraniens qui ont finalement, ils sont rendus aux menaces américaines. Il est quand même extrêmement frappant que le Hezbollah, qui, je le rappelle, est une milice qui est dépendante de l'Iran, qui vient toujours aider l'Iran, qui a aidé l'Iran en Syrie, qui a aidé l'Iran l'année dernière quand la guerre des 12 jours a eu lieu. Et cette année, vous rappelez-vous, pendant plusieurs jours, le Hezbollah n'est pas intervenu. Et puis, ils ont finalement décidé d'entrer en guerre contre Israël, au grand déplaisir de beaucoup de Libanais, ce qui a entraîné le Liban dans la guerre. Et là, ce qui est quand même extrêmement frappant, c'est de voir l'Iran qui sort du conflit par ce cessez-le-feu, sans que son allié, son subordonné, la milice dont elle est si proche, soit concernée. C'est extrêmement frappant. Je pense que, de la part des Iraniens, une des premières choses à faire aurait été de dire, évidemment, que le Liban doit être inclus.
C'est ce que disent les Iraniens. Les Iraniens disent que le Liban est inclus dans ce cessez-le-feu.
Vous savez, là aussi, entre ce qu'ils disent en public et ce qu'ils ont réellement accepté, il y a peut-être un écart. Et en tout cas, si c'est le cas, ça veut dire que le Liban et donc Israël va continuer son opération militaire, finalement, avec une certaine solitude du Hezbollah.
David Rigoulet-Rose, c'est quand même un drôle de cessez-le-feu, parce qu'il y a les frappes au Liban, particulièrement meurtrières. Les pays du Golfe sont également visés par des frappes iraniennes. On a vu l'Arabie Saoudite intercepter 9 drones. Le ministre pakistanais dit lui-même que le cessez-le-feu n'est pas vraiment respecté entre Iraniens et Américains. C'est un drôle de cessez-le-feu pour l'instant.
Cessez-le-feu, en fait, le seul qui n'ont pas dégainé aujourd'hui, c'est les Américains, quoi, en fait.
Oui, en réalité. Oui.
C'est ça. Alors, les seuls qui n'ont pas tiré aujourd'hui.
Il y a une frappe en Iran, sur indéterminé pour. Mais ce qui est frappant, c'est effectivement, c'est que il y a pas de cessez-le-feu réel pour l'instant. Alors, Pete Hegseth a fait une déclaration en disant que ça tenait potentiellement à la décentralisation de l'organisation de l'armée iranienne, enfin en tout cas des Pasdaran, qui ont une marge de manœuvre effectivement relativement grande, et que il fallait prévenir tout le monde,
tout le monde n'aurait pas été informé,
et qu'on pouvait utiliser des oiseaux, des pigeons voyageurs éventuellement, le cas échéant.
Le téléphone n'existant pas.
Voilà, pour.
Justement,
ils ont coupé le téléphone.
Pour signaler que effectivement il y a eu un ordre central, mais en réalité ça pose le problème de fond, c'est-à-dire qui décide à Téhéran, parce que c'est pas une personne. Et d'ailleurs, on le voit avec le formatage attendu de la délégation iranienne à Islamabad.
Vendredi.
Il était question que ce soit Khalifa.
Il faut préciser que les Américains et les Iraniens vont discuter vendredi au Pakistan. Ils sont censés se voir.
Se voir directement, d'ailleurs, ce qui serait sans précédent de ce point de vue-là.
On ne sait pas qui va représenter les deux pays.
D'ailleurs, il était question que ce soit J.D. Vance, puis finalement, ce n'est pas forcément lui qui irait.
À la Maison-Blanche, je dis pour des questions de sécurité, il ne va pas y aller.
Oui, mais du côté iranien, la chose est plus confuse parce que, évidemment, c'était Khalibaf qui était pressenti, y compris par la partie américaine. Il semblerait que ça ne soit pas assuré. Donc, il y a des tensions très fortes au sein du régime iranien. Et d'ailleurs, ça se sent avec les versions qui sont présentées, puisqu'il y a une version en farsi, une version en anglais. Elles sont pas compatibles.
Même sur le plan, le fameux plan de 10 points iranien. Alors la Maison Blanche dit ce soir, ce plan, c'est pas le plan des négociations. On va pas partir de ce plan-là.
Mais Trump a fait une précision cet après-midi en disant qu'effectivement le plan des Iraniens n'était pas le plan qui est discuté en secret.
Alors quel plan est discuté alors ?
Il ajoute, les vrais points seront discutés à huis clos à Islamabad. Donc, on voit bien qu'il y a encore un désaccord sur les points. Je rappelle qu'à l'origine, il y avait 15 points américains et 10 points iraniens. Dans les premiers échanges, les Iraniens n'avaient même pas inclus l'uranium et les Iraniens disent aujourd'hui encore nous aurons le droit d'enrichir l'uranium, notamment à des fins civiles. Côté américain, on dit il n'en est pas question. L'autre point de divergence, c'est aussi sur les fameux 440 kilos. Les Américains disent on va les récupérer, on sait où ils sont, grâce aux satellites, disent les Américains, et on va aller les récupérer avec les Iraniens. On voit en fait, si vous voulez, qu'il y a eu un accord absolument, inattendu ou spectaculaire qui a empêché la fin du monde, c'est déjà une bonne chose, mais qui ne règle rien et que donc il va y avoir des négociations extrêmement difficiles qui peuvent capoter à tout moment. Et en plus, avec un Israël qui quand même, a reculons certes, mais a quand même accepté le principe d'un cessez-le-feu pendant 2 semaines en Iran, bien en Iran, et jamais sur le Liban. Donc il y a une sorte de vide, en fait, qu'il faut combler assez rapidement, parce que sinon, ça risque de faire capoter la négociation.
Et puis il y a toujours cette rhétorique que l'on peut entendre, notamment à la télé iranienne. On dit, écoutez, si jamais il se passe quoi que ce soit, on est prêt, regardez.
Il a été décidé que des négociations auraient lieu à Islamabad pour finaliser les détails et que dans un délai maximal de 15 jours, la victoire de l'Iran sur le champ de bataille soit également consolidée par le biais de négociations politiques. Nous avons le doigt sur la gâchette et la moindre erreur de la part de l'ennemi sera punie avec toute la rigueur nécessaire.
Le doigt sur la gâchette.
Il faut décortiquer quand même la propagande iranienne.
Oui, bien sûr.
Parce que quand même, les capacités militaires iraniennes ont été détruites. Alors, c'est pas à 100%, mais...
Pas à 100%, mais objectivement, l'Iran est très affaibli. Mais c'est vrai que c'est un régime qui est habitué à avoir une rhétorique de propagande toujours très excessive. Ça ne dit pas grand-chose, ça ne dit rien en réalité des discussions de derrière les rideaux. Et d'ailleurs, je note à cet égard, même si... les situations sont très différentes. Rappelez-vous, dans les premiers jours d'opération vénézuélienne, Dulcy Rodriguez se répandait dans des diatribes enflammées contre les États-Unis, exigeant la libération de M. Maduro, etc. Au moment même où, en fait, en coulisses, elle était en train de discuter avec les Américains. Donc, au fond, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans le régime iranien. Et comme le disait tout à l'heure David Regoleros, il y a aussi une question profondément compliquée pour les Iraniens, qui est technique. C'est-à-dire que c'est un régime qui, depuis 1979, fonctionne en collectif. On se réunit, on discute, on est dans un système de groupe. Et là, aujourd'hui, compte tenu de la pénétration du renseignement israélo-américain dans l'appareil d'État iranien,
et puis les pertes aussi,
c'est extrêmement compliqué. Le dirigeant qui va prendre une décision, c'est qu'en fait, en réalité, il peut être assassiné à tout moment. Donc, il a sur ses épaules une très lourde responsabilité. Avec, évidemment, la pression inverse, c'est que ça peut aussi l'inciter, pour sa sécurité personnelle, à trouver une solution.
Il faut préciser aussi que le détroit d'Ormuz, qui était censé rouvrir, ne l'a pas vraiment.
Non, on
n'a
pas
fermé.
Rouvert. Il y a que deux bateaux qui sont passés.
Bateaux.
Mais je voulais revenir
ça,
à.
C'est pas encore fait, ça.
Je voulais revenir aux différents paramètres, notamment à la personnalité de ceux qui seront à la table des négociations. C'est, je pense, fondamental. Le fait que Trump n'accepte pas, apparemment, que J.D. Vance y aille et préfère que ce soit son gendre et Witkoff, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux que ça reste à la maison, entre nous, parce que lui va pouvoir faire du business derrière tout ça. En fait, c'est ça l'histoire. Parce que lui, son rêve, c'est de pouvoir discuter avec Khalibaf. Khalibaf, qui est le président du Parlement, a été quand même maire de Téhéran de 2005 à 2017 et pendant 12 ans, il s'est considérablement enrichi car c'est un homme extrêmement corrompu, qui a fait beaucoup d'argent
comme
dans
la plupart dans ce régime.
Oui, mais lui particulièrement, comme, donc qui dit corrompu dit corruptible. Mmh. Et donc c'est extrêmement important de pouvoir garder un canal de négociation direct
avec un
via son gendre, exactement, via son gendre, avec qui il parle certainement plus facilement, de manière plus fluide qu'avec J.D. Vance.
On va lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser.
Ça s'appelle une proposition qu'on ne peut pas refuser. Exactement, je vois que nous avons les mêmes références avec le parrain et le reste. Non, mais c'est ça. Et donc je pense que le rêve de Trump maintenant, c'est de trouver un interlocuteur qui soit achetable, qui soit corrompu, et ainsi, et après, on pourra avoir quoi ? Quelque chose de très important, c'est qu'il y aura immanquablement une nuit des longs couteaux à Téhéran. C'est une certitude. C'est-à-dire qu'ils vont s'égorger entre eux pour savoir qui sera le dernier qui restera et qui gardera le pouvoir, César Imperator.
Nous allons à Washington retrouver Antoine Hollard en direct pour BFM TV, parce que quand même, depuis hier, après avoir promis le pire à l'Iran, Donald Trump a finalement dit OK pour un cessez-le-feu. Et ça veut dire quoi ? Qu'il roule des mécaniques maintenant ? Il bombe le torse, le président des États-Unis ?
Oui, Donald Trump part d'une victoire totale et éclatante pour les États-Unis. C'est un récit qui est repris aussi par la Maison-Blanche ou par Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, qui est en conférence de presse ce matin. Lui aussi parle d'une victoire écrasante et historique. Reste qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus autour de cet accord que Donald Trump entend négocier. Hier, il évoquait un plan en 10 points qui est une base de travail acceptable, disait Donald Trump. Et puis aujourd'hui, on voit que la Maison-Blanche est en train de rétro-pédaler, alors que ces points, effectivement, sont totalement inacceptables pour les États-Unis. La Maison-Blanche explique que les points qui ont circulé dans la presse ne sont pas ceux qui ont été montrés à Donald Trump. Donald Trump lui-même, il y a quelques minutes, a fait une mise au point sur son réseau social en expliquant que les points qui seront discutés le seront à huis clos et qu'ils ne seront pas rendus publics auparavant. Donc, beaucoup de confusion autour de cet accord ou de cette proposition d'accord. Confusion aussi sur ce qui se passe au Liban. Donald Trump dit que les bombardements aujourd'hui menés par Israël au Liban sont une escarmouche séparée, que ça concerne le Hezbollah qui ne fait pas partie de l'accord. Il dit que c'est un problème qui sera rapidement réglé. Est-ce que ça veut dire que Trump a validé ces bombardements ? Est-ce qu'il a été informé par Netanyahou qu'ils allaient avoir lieu ? On n'a pas de réponse pour le moment sur ce point. Trump en tout cas dit donc que le Liban n'est pas concerné par l'accord, alors même que les négociateurs pakistanais affirment le contraire.
Antoine Delar, Washington pour BFM TV. On va quand même réécouter aussi le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth. C'est toujours intéressant d'écouter les différentes prises de parole pour essayer de voir sur quelle ligne on est dans la stratégie américaine.
Nous ne partirons pas. Nous allons nous assurer que l'Iran respecte les termes du cessez-le-feu. Concernant le détroit, vous avez vu l'accord initial qui a été conclu, que l'Iran laisse passer les bateaux. Donc ça va se produire. Les bateaux vont passer. Nous n'exportons que très peu d'énergie dans ce détroit. C'est vraiment temps que le monde intervienne, les autres pays du monde interviennent et fassent en sorte que le détroit reste ouvert. Mais là, voilà, il l'ouvre volontairement.
Alors, laisser passer les bateaux, aujourd'hui, rares ont été les navires, on en a compté deux, qui ont décidé de passer ce passage stratégique commercial. Pourquoi, en fait ? Pourquoi ça va être pas si simple que ça de rouvrir le détroit d'Hormuz ?
Je pense qu'il peut y avoir plusieurs questions qui se posent, mais l'une d'entre elles, c'est de savoir si ce passage sera libre ou s'il faudra verser à l'Iran son écho, ces fameux 2 millions de dollars payés en yuan qu'elle exige maintenant pour chaque navire. Ça, c'est peut-être quelque chose qui sera contenu dans l'accord ou pas. Et je voudrais juste revenir sur ce que disait Mario tout à l'heure, parce que je pense que c'est important, au sens où Trump, on s'est beaucoup moqué de lui, le disait, il y a bien eu un changement de régime à Téhéran, c'est-à-dire que la faction la plus radicale du régime, en tout cas la faction religieuse, semble avoir été écartée au profit des gardiens de la Révolution, qui sont à la fois très radicaux, et en même temps, dont on sait qu'ils sont très corrompus, ils ont beaucoup d'intérêts financiers, économiques dans l'économie iranienne, et ils ont du coup aussi un intérêt à les préserver. Là aussi, je trouve que le parallèle avec le régime chaviste est quand même intéressant, parce que c'est la faction affairiste, en fait, qui s'est emparée du pouvoir à Caracas. Donc ça pourrait peut-être donner lieu à des éléments de modération de la part du pouvoir iranien.
Oui, mais pas une capitulation.
Pas une capitulation. De toute façon, je pense que la nature idéologique du régime, il sera toujours un régime qui va conserver.
Mais comment est-ce qu'il justifierait auprès de la population que ça s'est calmé, qu'on était en train de passer
dans
à autre chose ?
Dans une dictature, ça n'a aucune importance. Oui, les gens ne vous croient pas.
Oui, l'opinion publique, voilà, on s'en fiche.
L'important, c'est... Et je veux juste finir sur ce point-là, en rappelant que dans ce contexte, la libération de nos otages peut s'expliquer ainsi, une forme de... Vous voyez, de gestes, en fait, de bonne volonté vis-à-vis des Occidentaux en général, pas seulement des Français. Et j'observe à cet égard qu'en Irak, vous savez qu'il y avait une journaliste américaine qui avait été enlevée par une milice pro-iranienne.
Elle a été libérée.
Elle a été libérée de manière aussi étonnante. Elle n'a pas été libérée. Je veux dire, elle n'a pas été retrouvée par les Américains. Elle a été volontairement
relâchée. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, ces deux signes-là, la libération de nos otages français et la libération de cette américaine, prouvent que, contrairement à ce qu'on pensait, les Iraniens commencent à être sensibles à l'image qu'ils donnent d'eux auprès du monde entier.
Mais est-ce que la population iranienne ne va pas être la grande perdante de tout ça?
Ah bah c'est la variable d'ajustement, ouais. De toute façon, c'est clair. Dans l'esprit de Donald Trump, de toute façon, ce n'est pas son critère dirimant premier. Il y a d'autres choses plus importantes. Il y a la question nucléaire qui demeure quand même la question centrale. La question balistique pour les Israéliens. Et c'est intéressant pour le Golfe, parce que ça fait partie, c'est un point qui, paradoxalement, peut être rentré dans la négociation, y compris pour les Américains. Ils ont évoqué le fait que ce serait un écho qui permettrait, un prélèvement qui permettrait de relancer l'économie iranienne, etc. Ça changerait le statut, hein, quand même, du transit. Parce que les Omanais ont fait valoir qu'ils avaient, eux, des engagements internationaux et qu'ils n'ont jamais réclamé la moindre taxation. Donc ce serait une victoire à présenter, en tout cas pour les Iraniens, dans le cadre d'un éventuel accord.
D'accord, mais un éventuel accord où ils renonceraient alors à l'uranium, à l'enrichissement...
De toute façon, ça paraît difficilement concevable qu'on fasse l'impasse sur ce point central.
Ah oui.
Parce que de toute façon, c'est le noyau dur du problème depuis le début. Oui. La question, et là, on retrouve effectivement le changement de régime. On n'est plus dans le régime des mollahs. Souvent, on parlait du régime des mollahs. C'est vrai, c'est plus le régime des mollahs.
Il faut arrêter de dire régime des mollahs.
Oui,
c'est le régime des gardiens de la révolution.
Des képis, oui. Des gardiens.
Est-ce qu'on est passé d'une dictature religieuse à une dictature militaire?
Il y a une dimension, j'ai appelé ça l'option pinochetiste, c'est-à-dire et avec l'horizon démocratique qui n'est pas spécialement ouvert, justement.
Non, même si Chili a fini par se démocratiser.
Oui, à terme, mais pas dans les médias.
Après le départ de Pinochet.
Moi, je voudrais juste rebondir sur l'aspect nucléaire et prolifération. En fait, la réalité, si on regarde la réalité, pas les conjectures, mais la réalité, c'est que l'espace aérien de l'Iran est complètement dans les mains des Israélo-Américains. Donc, en fait, toute relance du programme nucléaire ouverte, toute même reconstruction de l'industrie iranienne, y compris industrie de défense, est quand même très compliqué. En fait, ce qui peut arriver à l'Iran, c'est d'être dans la situation, vous savez, où était Gaza pendant des années, c'est-à-dire que régulièrement, la coalition israélo-américaine viendrait, comme on le disait, tondre la pelouse, c'est-à-dire détruire des capacités en train d'être reconstruites. Donc, ça veut dire aussi que, par défaut, les dirigeants iraniens, voyant cette situation, sont aussi poussés à trouver un accord pour réintroduire une forme de stabilité dans leur système.
Et d'accord. Rien ne les empêche ensuite, de délocaliser leur production d'uranium en Corée du Nord.
Qui est leur
nouvel allié. Enfin, ça fait déjà un moment, mais Kim Jong-un, qui lui s'est bunkerisé littéralement dans son royaume à Pyongyang.
Donald Trump le trouve sympathique. C'est ce qu'il a dit.
Rocketman.
Il l'a trouvé sympathique parce que Kim Jong-un a dit du bien de Trump. Donc dès qu'on dit du bien de Trump, on est en odeur de sainteté forcément. Mais non, mais ça c'est possible, c'est parfaitement possible que. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué.
C'est pour comprendre ce qui se joue en ce moment, c'est-à-dire Donald Trump aujourd'hui n'a pas, les Américains n'ont pas dégainé, n'ont pas frappé. C'est Israël qui a mis le paquet. Israël dit on a tué une centaine de personnes qui appartenaient au Hezbollah. Donc comme ça dit aux Iraniens, voyez, nous maintenant on tape plus, ça tape là-bas, le Hezbollah est en train d'être liquidé. Donc maintenant vous avez compris, il y a plus personne à Téhéran, le Hezbollah on est en train de l'éradiquer. Il faut discuter, il faut négocier. C'est comme ça, ça se joue à deux, c'est alors, le double rôle.
D'abord, il faut quand même rappeler qu'il y a deux guerres différentes.
Différentes.
Et donc, mais l'accord de cessez-le-feu, on le sait maintenant avec certitude, contrairement à ce qui a été annoncé par le Premier ministre du Pakistan, l'accord ne concerne pas le Liban. Ça, c'est un point majeur.
Et oui, mais ce que fait Israël arrange les Américains aussi.
Disons qu'il y a une convergence de vues sur la nécessité, effectivement, de débarrasser le Liban du Hezbollah. Oui, c'est vrai. Donc il y a deux guerres différentes. Le Liban, la guerre n'est pas finie, elle va continuer, et Israël ira jusqu'au moment où Trump dira il faut s'arrêter. Et il ne le dira que si ça met en péril le cessez-le-feu sur la guerre principale, qui est la guerre en Iran. Et sur cette guerre-là, il y a encore une grande incertitude sur les contenus des 10 points qui ont été approuvés par Donald Trump. Personne aujourd'hui n'a révélé ces 10 points de façon précise et garantie. Même Axios, le site américain, n'a pas dévoilé ces 10 points. On ne sait pas en particulier s'il y a un accord sur les 440 kilos d'uranium enrichi, sur la capacité ou pas de l'Iran de continuer à enrichir de l'uranium. C'est un point essentiel. On ne sait pas non plus les détails sur le détroit d'Hormuz. Et alors, Ça veut dire qu'il y a une sorte encore, il y a encore un grand brouillard sur la négociation, et c'est pour ça que Trump lui-même dit les prochains jours vont être difficiles parce qu'il va falloir maintenant négocier point par point. Et donc on en saura plus avec si les points sont révélés d'une part, mais aussi qui conduira les deux délégations
vendredi.
Côté américain à Islamabad vendredi. Est-ce que côté américain J.D. Vance, le vice-président, ira ou pas, ou est-ce que ça sera
a priori non.
Oui, mais on n'en sait rien.
Ben, aujourd'hui, on dit que non.
Oui, mais la logique Trump, ça peut changer. Oui, honnêtement, Trump parle des charlatans, des fraudeurs, des menteurs qui diffusent des informations dont ils n'ont aucune source sérieuse. Donc, je dirais qu'il y a encore une incertitude. On verra. Jusqu'au dernier moment.
C'est fondamental.
C'est vrai que J.D. Vance n'est pas au cœur de négociations. Il a été envoyé en Hongrie, on le sait. Donc c'est pas vraiment le moment.
Il était pas Orban qui est menacé de faire les élections.
Donc il est probable que Trump a une confiance absolue dans son gendre et dans Steve Witkoff. Et il aurait sans doute envie de les envoyer. Sauf que les Iraniens, eux, réclament la présence de J.D. Vance. On va voir comment ça se passe. Mais côté iranien, c'est aussi très... Est-ce que ça sera le président du Parlement dont on a parlé, oui. Ghalibaf, seul, ou est-ce qu'il ira avec le ministre des Affaires étrangères? Alors, est-ce qu'il ira avec le président de la République d'Iran? Et en fonction des délégations, on pourra déjà commencer à analyser et voir sur quelle voie on se décide. Mais encore une fois, le cessez-le-feu, il est extrêmement fragile et tout le monde le sait.
C'est juste un mot pour dire que pour J.D. Vance, qui se veut peut-être futur candidat à la présidence américaine, être vu en train de serrer la main d'un Iranien, c'est peut-être pas la meilleure photo de promotion qu'il puisse avoir.
Du côté du Liban, le Hezbollah se dit en droit de riposter aux frappes israéliennes meurtrières. L'Iran qui a continué d'envoyer des drones, des attaques sur les pays du Golfe, aux Émirats Arabes Unis, où nous retrouvons Boris Karlamov en direct pour BFM TV. Vous êtes à Abu Dhabi, parce que malgré ces cessez-le-feu, on a tiré vers les Émirats Arabes Unis.
Oui, absolument, Alain, puisque les Émirats Arabes Unis, depuis le début de ce cessez-le-feu, disent avoir été la cible de 17 missiles balistiques, 35 drones iraniens, tout autant de missiles et de drones iraniens qui ont été interceptés par le système de défense aérien. La nuit dernière, déjà, il y avait eu cet incendie qui s'est déclaré dans la plus grande installation de transformation de gaz naturel des Émirats Arabes Unis, le complexe de Habshan, qui se situe à quelques kilomètres d'ici, à Abu Dhabi, un incendie qui avait été provoqué par la chute de débris de missiles interceptés quelques minutes auparavant par ce même système de défense aérien. Un incendie qui a fait 3 blessés légers et toutes les opérations sur ce site qui avaient été suspendues tout au long de cette journée. Voilà ce qu'avaient annoncé les autorités locales. Mais les Émirats Arabes Unis ne sont pas le seul pays du Golfe à être sous le feu nourri des Iraniens, puisque le Qatar également a intercepté aujourd'hui 7 missiles balistiques ainsi que plusieurs drones iraniens. Et en ce qui concerne le Koweït, eh bien nous apprenons ce soir qu'une attaque de drone a endommagé plusieurs installations énergétiques, dont notamment un complexe pétrolier. Donc une riposte iranienne qui se poursuit envers les pays du Golfe, et ce, malgré le début de ce cessez-le-feu.